Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous allons commencer notre émission par le kaléidoscope de la deuxième partie qui sera continuée avec le magazine culturel L'Indonésie en couleur et Courrier et musique. Écoutons maintenant le kaléidoscope 2017.
Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Voici le kaléidoscope 2017 de La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, on continue le kaléidoscope 2017 et passons au mois de juillet. Le 1er juillet, le 4e congrès de la diaspora indonésienne a eu lieu au Jakarta, en présence de milliards de participants venus de dizaines de pays. En outre, le président américain Barack Obama était présent dans ce congrès. Dans son discours, Barack Obama a apprécié la performance du président Joko Widodo qui a clairement mis en avant les progrès de la nation. L'un d'eux est à travers le développement de l'infrastructure dans le pays. Hier, j'ai également eu une opportunité avec votre président où nous avons travaillé ensemble. J'ai trouvé toujours que Joko Widodo avait une intégrité fermée. Un homme qui sait sincèrement qui faire, ce qui est juste pour tous les musulmans. Et j'étais assez sûr du travail qu'il continue de prioriser pour l'Indonésie, y compris l'infrastructure, le développement économique, l'investissement et la création d'opportunités pour tous les Indonésiens. Puis j'ai dit à Jokowi que je veux visiter l'Indonésie lors de mon premier voyage en Asie, en tant qu'ancien président, parce que je crois vraiment en l'avenir de ce pays. Et en particulier, je crois aux jeunes de ce pays et aux jeunes vers l'Asie du Sud-Est. Le 4 juillet, le vice-président Yusuf Kalla à Jakarta a déclaré que les efforts développés, je voulais dire les efforts déployés par l'Indonésie pour populariser l'île de Komodo, en promouvant le charme des touristes de l'île, ont eu du grand succès. La destination touristique de l'île de Komodo à Nusa Tenggara Est est entrée avec succès dans la liste de 100 meilleures destinations touristiques mondiales du magazine National Geographic en 2017. Dans la liste, l'île de Komodo est même entrée dans le top 10 dans la catégorie des attractions touristiques recommandées pour le tourisme de printemps.
Kita bangga bahwa di Indonesia ini yang masuk 100 besar dan lidah 10 besar itu Komodo.
Nous sommes fiers car l'Indonésie est entrée dans le top 100 et le top 10, c'est l'île Komodo. Cela indique que nos efforts pour populariser Komodo ont réussi. Cela signifie que c'est une chose intéressante, surtout pour les étrangères. Le 8 juillet, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie soutient le développement d'un partenariat égalitaire entre le G20 et l'Afrique. Dans la retraite des dirigeants du G20, en coopération avec l'Afrique, la migration et la santé à Hambourg, le président a mentionné que l'Indonésie était avec l'Afrique depuis le début pour lutter pour l'indépendance et l'égalité entre les pays du monde par la conférence Asie-Afrique de l'année 1955. Le président Joko Widodo a souligné que l'Indonésie veut réaliser la proximité politique construite depuis 1955 pour être une vraie proximité économique en promouvant l'investissement, en réduisant et en éliminant les barrières commerciales et aussi en augmentant la coopération technique. Dans le même jour, le président Joko Widodo a appelé l'attention du gouvernement norvégien sur la résolution du Parlement norvégien du 2 juin 2017 sur l'huile de palme. La présidente a rejeté la résolution parce qu'elle est considérée incompatible avec l'esprit des coopérations sur la réduction des émissions par la déforestation et de la dégradation des forêts entre l'Indonésie et la Norvège, et en même temps refuser les efforts de l'Indonésie pour atténuer le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable. Le président Joko Widodo estime que le gouvernement norvégien soutiendra des relations commerciales ouvertes et équitables. La déclaration a été faite par le président Joko Widodo à travers le ministre des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, après une réunion bilatérale du président Joko Widodo avec le premier ministre norvégien Erna Solberg, en marge de la tenue du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. Cette résolution parlementaire norvégienne fait suite à la résolution précédente du Parlement européen relative à la certification des produits de palme et à l'interdiction du biodiesel à base de palme. Le gouvernement de l'Indonésie a regretté si la question du palmier à huile soit considérée comme un facteur majeur de la déforestation.
Nous
savons que nous voulons promouvoir le commerce et l'investissement, et aussi le commerce qui profite aux deux pays. Il y a aussi un problème que nous répétons à propos de la question du palmier à huile dans le contexte de son biodiesel. Toujours au 8 juillet, en outre du premier ministre norvégien, le président Joko Widodo a également tenu une réunion bilatérale avec le premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Le 9 juillet, lors d'une conférence de presse à Hambourg, en Allemagne, le ministre des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, a déclaré que le président Joko Widodo a fait part de la position de l'Indonésie dans la lutte contre le terrorisme. Le président met l'accent sur une approche équilibrée entre le pouvoir dur et la puissance douce. C'est ce qui a été répondu positivement par les chefs d'État et de gouvernement des membres du G20. Le sommet du G20 à Hambourg en Allemagne a été clôturé par la publication d'un plan d'action sur le problème de la lutte contre le terrorisme. Spécifiquement dans les plans d'action, il y a le soutien des pays membres du G20 sur le démarrage du processus d'adhésion de l'Indonésie dans les forums des pays qui luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
This is for the first time bahwa G20 mengeluarkan plan of action on countering terrorism.
C'est la première fois que le G20 publie un plan d'action sur la lutte contre le terrorisme. Et dans le plan d'action, il est spécifiquement mentionné sur la question du soutien du G20 pour le début du processus d'adhésion indonésien dans les forums des pays qui luttent contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc, c'est précisément le seul problème. Et certainement, après cela, il y aura plusieurs processus, y compris la livraison de délégations du haut niveau en Indonésie. Jusqu'à ce que finalement l'Indonésie soit acceptée en tant que membre des forums des pays qui luttent contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous êtes toujours dans le Kaléidoscope 2017 de la Voix de l'Indonésie. Passons en août. Le 1er août, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a déclaré à Jakarta que des actes de terrorisme avaient été commis dans certaines parties de l'ASEAN, comme aux Philippines et en Indonésie, exigeant un engagement commun. Armanata Nasir a expliqué que même si l'ASEAN dispose déjà des mécanismes pour lutter contre le terrorisme, elle exige toujours l'engagement de tous les pays membres à prendre des mesures concrètes pour le faire. La menace de terrorisme est devenue l'objectif principal de l'Indonésie, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, Ratna Marsudi, lors de la réunion ministérielle de l'ASEAN du 4 au 8 août à Manille aux Philippines. Le 5 août, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN a été ouverte par le ministre des Affaires étrangères des Philippines, Alan Peter Cayetano, à Manille, aux Philippines. Dans son discours, le ministre Cayetano a déclaré qu'à l'ère de l'ASEAN, qui a duré un demi-siècle, les pays membres jouissent encore aujourd'hui de la prospérité, de la paix et de la sécurité dans la région. Nous jouissons maintenant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. Plus important encore, ces valeurs de l'ASEAN que nous avons encouragées au fil des ans sont les mêmes valeurs qui nous ont permis de prospérer et de progresser en paix et en harmonie avec nos voisins dans l'ASEAN. Malgré le fait que parfois il y a des problèmes et des sujets sensibles et compliqués entre nous, nous avons pourtant trouvé un moyen de vivre en paix et de donner la paix et la stabilité à notre région. Nous continuons au 9 août. Le président Joko Widodo a déclaré que les défis actuels qui se posent souvent sont les défis du radicalisme, du terrorisme, de la mondialisation, des stupéfiants et des drogues, de la traite des êtres humains, du trafic d'armes et de la cybercriminalité. Le président, dans son discours au symposium international de l'Association des cours constitutionnels et des institutions asiatiques similaires à Surakarta Java Central, a rappelé à la Cour constitutionnelle d'être une lumière pour la compréhension d'un pays.
Di tengah terpaan gelombang tantangan terbaru itu, peran dan posisi Mahkamah Konstitusi.
Au milieu de la dernière vague de défis, le rôle et la position de la Cour constitutionnelle dans chaque pays démocratique deviennent de plus en plus importants. Parce que la Cour constitutionnelle est une encre, une incandescence qui éclaire la compréhension d'un pays. Un point d'ancrage dans la compréhension de la vision initiale des fondateurs de la nation constituante, pour ressentir l'esprit et les nobles intentions des fondateurs de la nation. Ensuite, la Cour constitutionnelle est celle qui interprète la Constitution afin qu'elle puisse continuer à être une mainmise et devenir l'inspiration de la nation pour l'État en répondant aux nouveaux défis. Les délégués de 14 pays, dont l'Afghanistan, la Corée du Sud, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie et l'Indonésie, ont participé au symposium international qui s'est tenu les 9 et 10 août. L'un des points à l'ordre du jour de la réunion est l'élection du président du symposium pour la période 2017-2019. Dans cette élection, la Malaisie a été élue pour remplacer l'Indonésie dans la période prochaine. Le 21 août, le vice-président Yusuf Kalla a ouvert le sommet mondial de la diaspora en Indonésie et Jakarta. Selon le responsable de la réunion du haut niveau de diaspora Indonésia global, Edward Marnandi, l'événement a été organisé comme un événement de brainstorming entre la diaspora et les parties prenantes nationales pour le développement de l'Indonésie. La réunion a abordé trois sujets principaux. L'éducation et la santé pour la Papouasie et la Papouasie occidentale, les contributions de la diaspora aux économies d'énergie avec la nouvelle technologie et la protection de la diaspora indonésia globale. Le 23 août, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, en Indonésie était purement une affaire d'État. Le ministre Retno, au complexe du palais présidentiel de Jakarta, a expliqué que la relation entre les deux pays s'améliorait. Cela se voit de la création du partenariat stratégique entre l'Indonésie et le Vietnam. L'un d'entre eux est dans le secteur du commerce. En pleine détérioration de la situation économique mondiale, le commerce entre l'Indonésie et le Vietnam montre une croissance. Toujours à la même date, 25 dirigeants de la Cour des comptes de 11 pays se sont réunis à Bali pour discuter du rôle des organismes de contrôle financier dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. La réunion qui s'est tenue à Kuta du 23 au 25 août a permis de discuter des derniers développements et des objectifs à atteindre de la période 2017-2019 de chaque groupe de travail des organisations d'examinateurs du monde. Murmahadi Suryajanagara, le président de l'Agence supérieure de contrôle indonésienne, Akuta, a déclaré que le programme du groupe de travail était en phase avec ce que le gouvernement indonésien a lancé à moyen terme. Toujours le 23 août, l'Indonésie et la Chine ont convenu de renforcer l'alignement de la vision de l'axe maritime mondial et de l'initiative maritime du 21e siècle. L'accord a été conclu lors d'une réunion à huis clos entre le ministre indonésien des Affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, et le conseiller d'État chinois, Yang Jiji, les 21 et 22 août à Beijing. L'ambassade de la République d'Indonésie à Beijing a déclaré que la sixième réunion a également produit une note qui est devenue un guide commun pour le développement de la future coopération bilatérale en politique, droit et sécurité. Le 24 août, la dispute sur la mer de Chine méridionale s'est poursuivie. Bien qu'un certain nombre de pays, y compris l'Indonésie, aient tenté de résoudre rapidement le problème, le Vietnam et la République populaire de Chine insistent pour revendiquer le territoire. Le ministre coordinateur pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré aux journalistes en marche du 3e symposium international sur la sécurité maritime à Nusa Dua, Bali, le 24 août, que l'Indonésie a déjà décidé son propre engagement et son attitude vers les différents sur la mer Chine méridionale. Wiranto a ajouté que la Chine a également convenu avec les pays en conflit de mettre les codes de conduite sur le règlement pacifique du problème de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie a déjà sa propre attitude face au problème de la mer de Chine méridionale, n'est-ce pas? Je viens de visiter aussi la République populaire de Chine pour parler de la mer de Chine méridionale. L'Indonésie est en mesure de pousser pour le règlement de la mer de Chine méridionale avec des nations qui s'impliquent à résoudre pacifiquement. Il ne devrait y avoir aucune exposition des corps ou une exposition des forces qui pourrait conduire à un conflit plus aigu. Le 29 août, le bureau du procureur général de l'Indonésie et de Singapour a signé un mémorandum d'accord sur la coopération juridique en matière d'échange d'informations et de formation. Le procureur général de l'Indonésie, Muhammad Prasetyo, après avoir signé le mémorandum d'accord à Zimbalan, Bali, a déclaré que les deux pays ont jusqu'ici eu une différence fondamentale dans l'application du système juridique. L'Indonésie adhère aux Hollandais et Singapour suit le système légal britannique. Selon lui, avec le mémorandum d'accord, les limitations des compétences peuvent être négligées. Passons au septembre. Le 3 septembre, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu la visite du ministre costaricien des Affaires étrangères, Manuel Antonio González Sanz, au ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta. La priorité de cette réunion bilatérale est la discussion de l'ouverture officielle de l'ambassade du Costa Rica à Jakarta pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Selon le ministre Retno Marsudi, l'ouverture de l'ambassade du Costa Rica en Indonésie est une affirmation de la réputation de Jakarta en tant que capitale diplomatique de l'ASEAN. Bien sûr, l'ouverture de l'ambassade du Costa Rica à Jakarta facilitera le renforcement de la coopération de l'Indonésie avec le Costa Rica dans divers domaines et affirme en outre la réputation de Jakarta en tant que capitale diplomatique de l'ASEAN. Le 6 septembre, des parlementaires d'un certain nombre de pays du monde participent au Forum parlementaire mondial sur le développement durable. Cet événement qui se déroule à Bali les 6 et 7 septembre ont abordé diverses questions, notamment les efforts parlementaires mondiaux pour soutenir la réalisation des objectifs du développement durable de 2030, je voulais dire 2030, et promouvoir la paix à Rakhine au Myanmar. Dans l'ouverture du Forum parlementaire mondial sur le développement durable à Bali, le président de la Chambre des représentants indonésienne, Setia Novanto, a affirmé que le Parlement a la responsabilité de créer la paix mondiale, dont l'une met fin à la crise humanitaire affectant les Rohingyas à Rakhine, Myanmar.
Kami sangat prihatin atas konflik dan kekerasan yang terjadi di Rakhine.
Nous sommes profondément préoccupés par les conflits et la violence qui ont eu lieu à Rakhine. Et pour cela, nous appelons le gouvernement du Myanmar à rétablir immédiatement la stabilité et à fournir une protection de sécurité inclusive à toutes les communautés de Rakhine, y compris les Rohingyas. Le 20 septembre, le ministre indonésien du Commerce, Enggartia Stolokita, et le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Stephen Siobo, ont tenu une réunion au ministère du Commerce de Jakarta. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté du développement des négociations indonésiennes-Australie sur l'accord de partenariat économique global ou Comprehensive Economic Partnership Agreement. Le ministre Enggartia Sto s'attend à ce que les négociations puissent être achevées d'ici la fin de 2017 et puissent être bientôt mises en œuvre. Nous allons finir l'accord cette année. Et la réunion était très positive, dont l'accord du partenariat économique global peut être signé par nos deux chefs d'État d'ici la fin de cette année au plus tard. Continuons en octobre. Le 1er octobre, le président Joko Widodo est devenu inspecteur de la journée du Kesaktian Pancasila au complexe du monument Pancasila Sakti à Lubang Buaya, Jakarta. Après la cérémonie, le président Joko Widodo a déclaré que Pancasila, comme la philosophie et l'idéologie de la nation indonésienne, doit être fermement tenue afin que l'unité de la nation ne soit pas dérangée par d'autres idéologies. Le président invite également toutes les composantes de la nation et a ordonné à l'armée indonésienne, à la police et aux agences gouvernementales de se mettre en synergie pour faire face à la concurrence mondiale. Le 5 octobre, le président Joko Widodo a exprimé son appréciation à l'armée nationale indonésienne, ou TNI, et s'attend à ce que l'armée s'unisse à d'autres institutions pour la sauvegarde de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le président Joko Widodo l'a transmis dans son discours en tant qu'aspecteur de la 62e cérémonie d'anniversaire de l'armée nationale indonésienne à Indakiat Dock, Cilegon, Banten.
Dan dengan penuh rasa optimisme, saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi.
Et avec un sentiment d'optimisme, je dis que l'armée nationale indonésienne deviendra une force armée de plus en plus respectée par d'autres pays, une grande puissance dans la région et en Asie. Et je le dis avec la conviction que l'armée nationale indonésienne sera toujours la première partie qui maintient l'unité et l'intégrité de la nation unie de la République d'Indonésie. Le 15 octobre, le Conseil olympique asiatique et le Comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018 ont décidé de modifier une partie du contenu du contrat de vélote des Jeux asiatiques de 2018. La chose la plus importante dans le changement du contrat est liée à l'utilisation des fonds de parrainage ou sponsorship funding. Le vice-président Youssef Kala, qui est également le président directeur du comité des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, estime que le dernier accord signé soutiendra le bon financement par le sponsor dans l'organisation des Jeux asiatiques l'année prochaine.
Principe pokok perubahan itu ialah untuk melancarkan
Les principes fondamentaux du changement sont de lancer les Jeux asiatiques et d'améliorer la qualité des Jeux asiatiques, puis pour rationaliser les Jeux asiatiques et aussi clarifier les responsabilités de chaque partie dans cette organisation. Le 24 octobre, l'Assemblée législative du peuple de l'Indonésie a adopté un règlement gouvernemental remplaçant la loi numéro 2 de 2017 sur l'organisation communautaire. Dans son discours à la Chambre des représentants à Jakarta, le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, représentant le président Joko Widodo, a fermement nié l'hypothèse selon laquelle le règlement gouvernemental imposerait la liberté de s'associer et de créer des organisations, y compris des organisations sociales. Le ministre Cahyo a également déclaré que le gouvernement recevrait toujours des suggestions limitées. Vous êtes toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, dans le Kaléidoscope 2017. Nous sommes maintenant dans le mois de novembre. Le 5 novembre, le chef de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme, le commissaire général de police Suhardi Alius, a expliqué le modèle des approches indonésiennes dans la lutte contre le terrorisme au roi Abdallah II de Jordanie à Amman. Selon Suhardi Alius, le roi Abdallah II a encouragé une coopération encore plus étroite entre l'Indonésie et la Jordanie dans le domaine du contre-terrorisme. Le 9 novembre, le président indonésien Joko Widodo et la première dame Iriana Joko Widodo ont reçu la visite officielle du président sud-coréen Moon Jae-in et la première dame Kim Jong-suk au palais présidentiel de Bogor, Java West. Dans une déclaration de presse conjointe, le président Joko Widodo a salué le renforcement du statut de partenariat entre l'Indonésie et la Corée du Sud en un partenariat stratégique spécial mettant l'accent sur l'accélération du secteur industriel en Indonésie. Certaines des choses discutées lors de la réunion étaient entre autres le premier et d'améliorer l'accord des deux pays dans un partenariat stratégique spécial avec l'accentuation de l'accélération de l'industrialisation en Indonésie. Deuxièmement, nous saluons l'augmentation de l'investissement de la Corée du Sud qui a presque doublé dans la première moitié de 2017. La troisième, la coopération de l'industrie créative dont j'avais discuté lors d'une visite en Corée du Sud en 2016 a également été suivie par l'ouverture de la Korean Creative Content Agency à Jakarta en octobre 2016. Le 12 novembre, le président Joko Widodo a rendu une visite d'État à Manille aux Philippines avec une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Selon la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, lors de la réunion, les deux chefs d'État ont lancé le logo du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. En outre, le président Joko Widodo et le premier ministre Shinzo Abe ont également discuté des projets de coopération en cours entre les deux pays, comme le développement des infrastructures. Le 14 novembre, les dirigeants de l'ASEAN, du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud ont publié deux documents importants lors du sommet du 20e anniversaire d'ASEAN plus 3 à Manille. Ces deux documents sont la déclaration de Manille sur le 20e anniversaire de la coopération ASEAN plus 3 et la déclaration commune des dirigeants de l'ASEAN plus 3 sur la coopération en matière de sécurité alimentaire. Dans la même date, le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, au sommet d'ASEAN-Chine, tenu à Manille, aux Philippines, a déclaré que les dirigeants des pays membres de l'ASEAN et de la Chine ont annoncé qu'ils allaient commencer à négocier un code de conduite pour résoudre le problème de la mer de Chine méridionale.
Untuk ASEAN-China, jadi kemarin leader sudah sepakat meng-announce bahwa negosiasi.
Donc pour l'ASEAN-Chine hier, les dirigeants ont convenu d'annoncer que les négociations pour le COC commencent. Tout ce qui reste maintenant est le processus de démarrage, quand devrait-il commencer et ainsi de suite. C'est le Singapour qui va coordonner l'ASEAN-Chine. Cela veut dire que le Singapour va discuter avec la Chine pour décider la date de la négociation. Alors hier, presque tous les dirigeants ont souligné l'importance de commencer immédiatement les négociations parce qu'il y avait déjà un accord sur le niveau des dirigeants pour le lancer. Nous allons le pousser tout de suite et nous le ferons en sorte que la finalisation des négociations se poursuive. Nous passons au 19 novembre. La construction des hôpitaux indonésiens à Myeongbuk, état de Rakhine, Myanmar, a officiellement commencé après la pose de la première pierre. La porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Amanda Nasir, a déclaré que la construction de cet hôpital est le résultat de la coopération entre le gouvernement indonésien et le peuple indonésien, y compris la Croix-Rouge indonésienne, diverses organisations non gouvernementales et des secteurs privés indonésiens. Le 25 novembre, le président Joko Widodo a fortement condamné les fusillades et les attentats à la bombe qui ont eu lieu à la mosquée Al-Rauda, à la ville de El Arish, au péninsule du nord de la province du Sinaï. Les actes de terreur ont entraîné un certain nombre de blessures et de décès. Je condamne fermement les attentats terroristes en Égypte, au nord du Sinaï, et j'étends le chagrin et la sympathie de tous les peuples indonésiens au gouvernement égyptien, au peuple égyptien et aux victimes. L'Indonésie sera toujours avec l'Égypte dans une situation si difficile. Je pense que j'ai déjà souvent répété que la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme est notre travail commun. Le 29 novembre, Puan Maharani, la ministre coordinateur pour le développement humain et la culture, a déclaré que les gouvernements central et provincial de Bali étaient prêts à anticiper l'impact de l'éruption du mont Agung survenu le 25 novembre. La ministre Puan a expliqué que le gouvernement essaie toujours de fournir un maximum de services aux touristes étrangers qui sont toujours bloqués sur l'île de Bali, en fournissant des informations toutes les 5 heures à l'aéroport international Igusti Ngurah Rai et une politique de sortie ou exit pass d'une semaine dont la période de visa est terminée. Les services de santé dans les camps de réfugiés ont déjà été préparés, de même pour les écoles qui sont affectées. Le processus d'enseignement et d'apprentissage est réalisé dans l'école la plus proche du poste d'évacuation. Le gouvernement a préparé plusieurs lieux de réfugiés dans les lieux déterminés. L'approvisionnement alimentaire est également prêt par Madame la ministre sociale. Toujours le 29 novembre, le président Joko Widodo a rencontré le vice-premier ministre chinois Liu Yandong au palais Merdeka de Jakarta. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président, a déclaré que le président Joko Widodo espère à renforcer la coopération entre les deux pays, demandant entre autres que la Chine élargisse l'accès des produits indonésiens à la Chine et d'accroître les investissements chinois en Indonésie. Vous êtes encore dans le Kaléidoscope 2017, présenté par la Voix de l'Indonésie. On continue au décembre. Le 7 décembre, le vice-président Yusuf Kalla, lors de l'ouverture officielle du 10e forum de Bali sur la démocratie, à Tangranusut, Banten a souligné l'existence de partis qui ont imposé la démocratie à d'autres pays et qui ont mis fin à la dégradation de la qualité de vie de ces pays. Ceci, selon le vice-président, est contraire à l'objectif de la démocratie qui devrait apporter la prospérité à la société. Parce que pour nous, la démocratie n'est pas un objectif. La démocratie est un outil pour atteindre les objectifs. Beaucoup de grandes nations semblent prendre la démocratie comme une religion, comme un principe, donc la démocratie devient un objectif. Alors la vie de ces nations devient bien pire qu'avant. Regardez l'Irak, regardez la Syrie. Après avoir été contraints à la démocratie, ils sont attaqués par l'Amérique. Alors la vie du pays est maintenant bien pire que leurs objectifs initiaux. Le 8 décembre, le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, a fermé le forum de Bali sur la démocratie qui s'est tenu les 7 et 8 décembre, suivi par les participants de 96 pays et de 7 organisations internationales. Dans son discours, A.M. Fahir a souligné les points clés soulevés dans les panels ministériels ainsi que les sessions de débat général. Ces points comprennent les préalables démocratiques et les défis démocratiques. En outre, il a également souligné les efforts de l'ASEAN en tant qu'organisation régionale pour renforcer sa démocratie.
ASEAN is regional organization is strengthening the norm of and commitment to democracy.
L'ASEAN en tant qu'organisation régionale renforce la norme et l'engagement vers la démocratie à travers son cadre normatif qui peut servir de référence pour mesurer la démocratie. Au cours des 50 dernières années, l'ASEAN a développé une culture de dialogue et du maintien de la sécurité dans les régions, ce qui est également bénéfique dans la délibération des problèmes, y compris avec les partenaires du dialogue ASEAN et divers mécanismes centrés sur l'ASEAN. Le 10 décembre, le ministre des Affaires étrangères, Ratno Marsoudi, est parti à Amman, Jordan et Bruxelles pour une réunion avec le ministre jordanien des Affaires étrangères, palestinien et européen, afin de renforcer son soutien au rejet de la décision du président américain Donald Trump concernant l'établissement unilatéral de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le 14 décembre, le président Joko Widodo est arrivé à Jakarta après avoir assisté à une conférence extraordinaire de haut niveau de l'Organisation de coopération islamique. Le président Joko Widodo à l'aéroport Halim Perdana Kusuma de Jakarta a transmis les points importants proposés par le gouvernement indonésien concernant la reconnaissance des États-Unis sur Jérusalem en tant que capitale d'Israël.
Yang pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut.
Le premier, l'OCI doit fermement rejeter la reconnaissance unilatérale et la solution des deux États est la seule solution avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Deuxièmement, nous demandons à tous les États ayant des ambassades à Tel Aviv de ne pas suivre la décision des États-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem. Le troisième, les pays de l'OCI peuvent être en moteur pour déplacer le soutien de l'État qui n'a pas reconnu l'indépendance de la Palestine à le faire immédiatement. Quatrièmement, les États membres de l'OCI ayant des liens avec Israël prendraient des mesures diplomatiques, y compris la possibilité d'examiner les relations avec Israël conformément à diverses résolutions de l'OCI. Le cinquième, les membres de l'OCI devraient prendre des mesures ensemble pour améliorer l'aide humanitaire, le renforcement des capacités et la coopération économique pour les Palestiniens. Le sixième, l'OCI doit être capable de devenir un moteur pour le mouvement dans divers forums internationaux et multilatéraux. Le président Joko Widodo a ajouté qu'il y avait trois résultats supplémentaires qui sont devenus l'accord des États membres de l'OCI. Ces trois résultats sont la naissance de la résolution de l'OCI sur Al-Aqsa, le communiqué final de l'OCI et la déclaration d'Istanbul. Le 17 décembre, le Conseil indonésien des ulémas a invité les musulmans en Indonésie à défendre la Palestine. À la suite des paroles du président américain Donald Trump, qui a unilatéralement proclamé que Jérusalem était la capitale d'Israël. Le président du Conseil des ulémas indonésien Ma'ruf Amin, lors de sa manifestation sur la défense pour la Palestine à Monas, Jakarta, a exprimé son soutien à la souveraineté et l'indépendance de Palestine, et aussi le soutien sur Jérusalem-Est en tant que capitale de la Palestine. Comme rapporté par Antara, Des dizaines de milliers de personnes de diverses organisations se sont rassemblées à Monas dans une défense pour la Palestine en apportant leur soutien à ce pays. Chers auditeurs et auditrices, voilà le Kaléidoscope 2017 de la Voix de l'Indonésie de RRI Service International depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, Service International, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales et le rapport d'écoute, y compris le message. Nous allons saluer nos auditeurs et présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous allons vous présenter des chansons pop chantées, groupe de musique, GAG. Bon, chers amis, écoutons maintenant la première chanson intitulée « Rupture amoureuse ».
Satu arahku, satukan tujuan. betapa laju, yeah, yeah. Jangan berhenti dengar kata hatimu, yeah. Suaraku dan menggantikan kata dahulu, teriak menggantikan badai berlalu. Suaramu takkan dapat tergantikan.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Rupture amoureuse. Et maintenant, je vais dire bonjour à l'auditeur qui habite en Algérie, Abdelkader Khalil, précisément à boîte postale 669 Al-Wahad Ouargla, 3000 RP Algérie. Il a écrit que, à l'occasion du Nouvel 2018, je suis heureux d'attendre à tous les amis de la voix de l'Indonésie. Mes plus chaleureuses félicitations à mes meilleurs voeux de santé, bonheur et succès à tout le peuple chinois de plus de progrès et de prospérité. Bonne année et bonne fête. Il a également envoyé le rapport d'écoute 26 décembre 2017. Il écrit réception rapport VOI RRI programme en français le mardi 26 décembre 2017, le journal des informations, le commentaire, l'histoire aujourd'hui, la mise au point et aussi le rappel des titres de l'information. Il a également écouté magazine culturel et rubrique Aller apprendre l'indonésien et magazine musical. Merci pour Abdelkader Khalil de l'Algérie. Et ensuite, nous allons également dire bonjour à Madame Lupna à 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, les États-Unis. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Je vais dire également bonjour à Leila Ahmad de Tours, la France, et Sergi Giovanni via Sibari, Camaro Inférieur, l'Italie. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Suara ou Leçon. Bonne écoute.
Sejoli menjadi
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter la rubrique Courrier et musique. Et maintenant, passons également bonjour à l'auditeur de Algérie, Nahmouti Nouari. Vous avez déjà envoyé email. Il a dit bonne et heureuse année 2018. Et le 24 décembre, il a envoyé aussi le email. Il a dit « J'étais à la Mecque et j'ai passé 2 semaines à l'Umra et j'ai trouvé beaucoup d'Indonésiens. Ils sont très sérieux et praticables. C'est un grand plaisir. Merci. » L'auditeur Nahmouti Nouari de l'Algérie. Merci, chers amis, de votre email. Et passons également bonjour à Farid Boumachal, rue de la Mosquée, numéro 06 Parc de Fouras Batna, aussi en Algérie. Et maintenant, je vais dire bonjour aux auditeurs de la France, Bernard Grondin à Saint-Ruel-du-Pont, l'île de la Réunion, l'océan Indien, toujours en France pour passer le bonjour à Maurice Mercier à 537 rue François Giraud, 69400 Ville France, Jean-Marie Bonplot à 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, La France, et Christian Guibaudot, rue Graston Charbonnier, 06300 Nice, La France. Merci les amis, comment allez-vous? J'espère tous en bonne santé. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous. Et voici les dernières chansons intitulées Heureuse et Gali Erata. Tous les deux sont chantés par Gak. À bientôt et bonne écoute.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat tawakan harapan semua impian. Dalam terapak kakak bawa senyuman harapan impian dalam.
Lukiskan dengan warnamu. Ah,
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Jeremy, vous avez écouté tout à l'heure la rubrique Courrier émotion. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. C'est avec un grand joie et meilleur vœu pour le nouvel an 2018, en espérant que cette année soit pleine de succès. Jeremy, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.